La revue de presse se fait depuis Paris avec vous, Claude Ascolovitch. Je
bonjour
vous
Nicolas
salue.
Le Chanceux, bonjour
et
Léa.
Vous parlerez de la finale de la Coupe de France.
Et la finale de la Coupe de France qui fait la une de Ouest France. Ce soir, les Herbiers tentent l'impossible. Et cette finale est l'occasion pour nos journaux de s'adonner à une veine journalistique un peu particulière, l'attendrissement. Car dans le choix des mots et des situations, les solides gaillards des Herbiers semblent des enfants qu'il faudrait protéger. Ainsi, le Parisien décrit les footballeur vendéen au Centre National du Football de Clairefontaine. Juste avant le repas, les Herbretais, aux yeux toujours émerveillés, naviguent dans le château. Quentin Bonnet et Joachim Eckmeyer se jettent sur le baby-foot. Rodrigue Bongongui se pose avec délicatesse dans un des fauteuils de cuir gris. « Il ne faudrait pas que je l'abîme », glisse-t-il, « ça doit coûter cher ». Et voilà donc des petites choses vendéens en colonie au château. Ils mangent bien, lisent, ils savent se tenir et respecter le passé. Et il semblerait dans nos journaux que cette finale est finalement une parabole sur l'ordre et la hiérarchie naturelle. Et ce n'est pas seulement une question de budget, mais du destin et du génie qui vous choisit ou ne vous choisit pas. Il y a dans l'équipe et dans le Parisien cette photo qu'on a beaucoup vue sur Internet d'une équipe de gamins au stade Léo Lagrange de Bondy, il y a un peu plus de 10 ans. Rodrigue Bongongui, celui qui fait attention quand il s'assoit dans des fauteuils en cuir, a la main posée sur l'épaule de son gardien de but. Mais à l'autre bout de la photo, un bambin rouge a été invité avec les grands. Il s'appelle Kylian Mbappé. Dans l'équipe, Bongongui se souvient. C'était notre préféré chez les Poussins. On le voyait dribbler tout le monde. Il était au-dessus du lot. Je vais lui demander s'il se souvient de moi. Le trop humble Bongongui est joliment croqué sur le site de Libération. Lui n'est pas devenu professionnel comme Mbappé. Il a eu des malheurs de santé. Il est croyant et il prie, il jeûne. Dieu lui donnera-t-il la révolte ce soir où tout est-il écrit? On lit dans Le Point la charge de Philippe de Villiers qui fait des footballeurs les continuateurs des révoltés de la Vendée sous la Révolution. Est-ce vraiment sérieux?
Non. Alors, en attendant qu'on résolve nos problèmes de liaison avec Cannes, on reprend d'ici l'antenne depuis le studio du 7-9 à Paris. Et je reprends les relances. Claude Ascolovitch, les jours fériés sont en question dans le Parisien aujourd'hui en France.
Qui sont si nombreux, nous dit le journal, il faudrait en supprimer, même si selon l'Est républicain, ce mois de pont a aussi des avantages. Ainsi, ce garage Lorrain, JCP Auto. Les familles qui partent en vacances ou en grand week-end sont très nombreuses. Elles en profitent pour faire leur contrôle technique dans la foulée. En ce moment, on n'arrête pas. Tout fait business finalement. Mais nous sommes tout de même le 8 mai, anniversaire de la capitulation nazie. Un 8 mai donc pour se souvenir, mais de quoi? Peut-être, c'est dans Le Monde, dans Télérama et sur le site Spicy, de ces handicapés mentaux littéralement exterminés par la faim dans des hôpitaux psychiatriques sous Vichy. C'est un film, un documentaire que l'on peut voir en ligne. On peut aussi se souvenir, c'est dans l'Éco-Républicain, du courage des villageois d'Escarpins dans l'Eure-et-Loire. Le maire Barret, le curé Perrault, qui avait enterré un pilote américain abattu par les Allemands en juin 1944. Et l'Éco-Républicain a donc décidé de faire partie des gens, des journaux qui se souviennent et qui racontent aussi cette fermière qui abrita et chérit 3 enfants juifs à Saint-Priest et après la guerre ne voulut aucune médaille. Ce sont des histoires simples. Dans le courrier Picard, 2 sœurs allemandes cherchent leur grand-père en Picardie. Il s'appelait Pierre Joube et venait de Saint-Quentin et faisait partie après la guerre des troupes françaises d'occupation en Allemagne. Il avait en Forêt-Noire rencontré et aimé la belle Martha Arnold qu'il abandonna en 1948 après lui avoir fait 2 enfants. Ses petites filles recherchent Pierre Joube. Elles ont sollicité une association, Cœur sans frontières. Quel joli nom. Mais il n'y a pas que de la poésie dans nos journaux. Une guerre, savez-vous, couve entre habitants de Chartres et citoyens de Rambouillet qui se disputent des parts de train. C'est dans l'Éco-Républicain encore, à quelques pages des Justes. Tout ceci se joue dans le TER Paris-Rambouillet-Chartres que finance la région Val-de-Loire. Mais alors, dit-on à Chartres, de quel droit les gens de Rambouillet le prennent-ils? Ils occupent nos places assises, ils n'ont qu'à aller dans le RER. Voilà, ce sont des luttes de temps de grève et de temps de paix. Grève et paix, c'est joli.
Et pour finir, le festival de Cannes, Claude.
À Cannes, où on ne nous entend pas, mais ils ont de la chance. À Cannes, où il s'agit, affiche le Figaro sur Internet, où il s'agit d'en finir avec l'affaire Weinstein. Mais si simple, quant aux États-Unis, le procureur de New York vient de démissionner. Eric Schneiderman était monté au front contre le terrible Weinstein, mais lui-même battait, révèle le New Yorker, ses amoureuses. On doit lire en ligne si l'on veut voir ce qu'est de la belle ouvrage journalistique, l'article qui a fait tomber Schneiderman sur le site du New Yorker. Il est signé, co-signé de Ronan Farrow, l'homme qui avait déjà abattu Weinstein, le fils révolté de Woody Allen. Cette phrase a été rajoutée au-dessus de l'article. 3 heures après la publication de cette histoire, Schneiderman a démissionné. Et voilà donc la puissance du journalisme, illustrée par le journalisme et l'écrit lui-même. Le cinéma, lui, doit se racheter dans la résistance et Libération met en scène une rédemption militante, tant le cinéma a les visages d'un cinéaste russe ou d'un cinéaste iranien persécuté ou d'un film kényan Rafiki, film lesbien dont le Kenya ne voudrait pas. Est-ce seulement de la politique, le cinéma, ou est-ce encore un art et un art populaire? Je lis dans Nice ce matin que Cédric Héroux, ce défenseur d'immigrants qui vient à Cannes pour défendre un film militant, lui n'a plus mis les pieds dans une salle depuis 1995. Il rate quelque chose. Il y a enfin, j'en termine ce matin, quand Cannes commence, de si beaux mots d'un homme qui va rater ce festival. Pierre Ricien est mort dimanche. Il devait présenter une version restaurée de son film « 5 et la peau », une errance noire du magnifique Fedoratkine auprès des femmes de Manille en 1980. Mais Ricien avait surtout été le découvreur de talents du festival et le prophète d'un art dont il tenait le culte au cinéma Mac Mahon à Paris. Tout ceci est bien raconté sur le site de Télérama, mais mieux encore dans Le Figaro, qui publie la dernière interview de cet homme qui s'était éduqué dans la lecture de Stendhal et l'amitié d'un grand écrivain qui s'appelait Roger Vaillant. Il dit ceci, vivant encore pour nous, Ricien, dans Le Figaro. Roger Vaillant a donné une formule à mon esprit d'indépendance et d'intégrité. Être français, c'est être souverain de soi-même. Être souverain de soi-même, on souhaite aux jeunes gens des Herbiers ce soir d'être non seulement vendéens, mais français,
merci,
avec Roger Vaillant.
Merci Claude Ascolovitch pour cette revue de presse.